croire à Dieu. Je vous invite à ouvrir l'Écriture sainte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9. Nous aurons une petite lecture là, une première petite lecture. Donc Matthieu chapitre 9 au verset 36, verset 35 déjà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. » Je relis juste le début du verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voilà, il est question ici de la compassion du Seigneur. Et certainement, il est heureux que le Seigneur ait eu de la compassion à notre égard. Cette compassion qui est la conséquence de son amour, de sa bonté, de sa patience et de sa miséricorde envers nous. Vous savez, la compassion, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et combien précieux dans tous les domaines de l'existence. Quelqu'un a fait un certain nombre de citations que je vous lis. Donc voici, donc ces citations sont les suivantes. Il y en a une treizaine plutôt. « Le devoir, sans compassion, rend mécontent. » La responsabilité, sans compassion, rend insensible. La justice, sans compassion, rend dure. La vérité, sans compassion, rend critique. L'éducation, sans compassion, rend contestataire. L'intelligence, sans compassion, rend rusée. L'ordre, sans compassion, rend mesquin. La connaissance des choses sans compassion rend ergoteur. La puissance sans compassion rend violent. L'honneur sans compassion rend orgueilleux. La possession sans compassion rend avare. La foi sans compassion rend fanatique. L'amabilité sans compassion rend hypocrite. Voilà, je crois que ces diverses citations nous aide à comprendre combien la compassion, c'est quelque chose qui met beaucoup d'huile dans les rouages des relations humaines. C'est vraiment quelque chose. Et combien plus forte raison nous pouvons bénir Dieu pour cette compassion dont le Seigneur Jésus use envers nous avec tant de fréquence et d'abondance. Mais qu'est-ce que la compassion? Vous savez, la compassion, compatir, ça vient du latin, ça veut dire du latin cum, donc, qui veut dire avec, et patere, ça veut dire souffrir. Souffrir avec, ça veut dire. Ouais, voyez-vous, compassion, c'est souffrir avec. Souffrir avec quelqu'un. Quand quelqu'un souffre, souffrir avec la personne. Ce n'est pas juste de la pitié. La pitié, ça va plus loin que la pitié. C'est vraiment le fait d'accompagner la personne, de la soutenir et de partager par sa souffrance, quelle que puisse être cette souffrance. Et le Seigneur Jésus a une compassion encore beaucoup plus grande que la nôtre, parce que non seulement il a souffert avec nous, mais l'Écriture nous dit qu'il a souffert pour nous. Il a souffert pour nous, ce que personne ne pouvait faire. Il a souffert pour nous, pour que nous puissions être tirés de notre misère. Et puis, il a souffert même à notre place. Ça va encore plus loin, vous voyez. Il a souffert à notre place. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, pour que nous n'ayons pas à connaître la perdition, et aussi pour que nous puissions être secourus, et que nous puissions être guéris, et que cette puissance bénissante et compassionnelle puisse se manifester dans nos vies. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de la compassion de Christ et de ses manifestations dans les évangiles. Et nous pourrons voir quatre choses. Déjà, en premier, nous pourrons voir qu'il y a trois occasions qui sont citées dans les évangiles, où il est écrit que Jésus a eu compassion d'une foule. Que Jésus a eu compassion d'une foule. Et puis il y a aussi trois autres occasions qui sont citées où Jésus a eu compassion de gens qui l'ont supplié. Spécifiquement des personnes qui l'ont supplié. Vous avez aussi trois occasions où le Seigneur a eu compassion de personnes qui sont nommément citées. Et enfin, vous avez trois paraboles, parce que Jésus donne des paraboles, vous savez, des petits récits avec des significations spirituelles. Trois paraboles dans lesquelles la compassion du Seigneur est aussi citée. Et ce sont ces quatre points successifs que nous voulons considérer au cours des quatre chapitres de notre message. Et donc, en premier, ces trois occasions où Jésus a eu compassion d'une foule, et voici notre texte que nous avons lu, chapitre 9, verset 36. Jésus voit donc cette foule, tous ces gens qui sont là, avec leur misère, avec leur maladie, avec leurs difficultés, avec tous leurs ennuis. Et comment va-t-il manifester cette compassion? Eh bien, nous le voyons qu'il le fait déjà, c'est pour ça qu'on a lu un petit peu avant, verset 35, en annonçant la bonne nouvelle du royaume et en guérissant toute maladie et toute infirmité. Mais maintenant, au point où il en arrive, Jésus voit que lui tout seul, dans son corps de chair, ne peut pas y suffire, mais même s'il prêchait, même s'il guérissait jour et nuit, parce qu'il y a trop de gens. Parce qu'il y a trop de besoins, parce qu'il y a trop de souffrances. Alors, pour mieux répondre aux besoins, il va en quelque sorte se multiplier au travers des 12 disciples qu'il va envoyer en son nom pour qu'en son nom, eh bien, il prêche la guérison, la délivrance et le salut et que donc, ces choses précieuses soient répandues d'autant plus fortement et d'autant plus largement. Et je dirais que c'est cela aussi donc un aspect très important de la compassion de Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est que jusqu'à aujourd'hui, puisque Jésus-Christ est toujours le même, qui n'a pas changé, et qu'il est le même, il ne changera pas éternellement. Donc jusqu'à aujourd'hui, il envoie des hommes qu'il revêt de sa puissance, de son esprit, et surtout rempli de sa parole pour annoncer le salut et les bénédictions au monde, et pour que, dans le nom de Jésus, des miracles, des guérisons et des délivrances soient opérés. Amen. Et nous voyons, nous expérimentons ces manifestations de compassion de sa part, encore aujourd'hui. Et Christ donc envoie ses serviteurs pour annoncer sa parole de guérison et de salut. Amen. Ensuite, nous allons un peu plus loin maintenant et nous lisons au chapitre 14, Matthieu chapitre 14 et au verset 14. Et là, il est marqué, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. » Vous voyez, encore une foule. Hein, « Et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Voilà encore cette foule qui était là, tous ces gens. Jésus avait emmené ses disciples à part, dans le but qu'ils puissent un peu se reposer, parce qu'ils agissaient, ils avaient travaillé avec beaucoup d'ardeur, et ils méritaient effectivement ce repos. Et il aurait pu renvoyer cette foule directement, comme d'ailleurs les disciples avaient le désir de le faire, hein, en leur disant de revenir plus tard. Mais malgré la fatigue, il est ému de compassion et il est marqué qu'il guérit les malades. Vous savez, les disciples en avaient certainement assez. Mais Jésus a montré sa compassion en quoi faisant? Eh bien, par une multiplication des pains. Parce que juste après, nous n'allons pas lire cela, mais juste après, vous pouvez le voir. Donc, il va opérer cette multiplication des pains en faveur de ces gens. Il va pourvoir donc à leurs besoins physiques. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, la compassion du Seigneur se manifeste en pourvoyant aux besoins matériels de ceux qui viennent à lui, de ceux qui se confient en lui. Si vous lui confiez votre vie, et que vous lui demandez de vous soutenir, de vous secourir, eh bien, il est puissant pour agir de manière à ce que vos besoins matériels soient pourvus. Béni soit son nom. Il est toujours le même pour agir ainsi. J'avance un peu et je trouve mon troisième texte, ma troisième foule en quelque sorte, c'est au chapitre 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Jésus est donc rempli de compassion pour ces gens qui sont restés près de lui à écouter sa parole sans manger pendant trois jours. Faut le faire quand même, hein? Faut le faire. Donc ça veut dire que c'est des gens qui avaient vraiment fait passer les choses de Dieu en premier dans leur vie, hein. À mon avis, c'est une preuve indiscutable, hein. Et le Seigneur, par conséquent, éprouve et il le proclame à leur égard, une compassion particulière. Hein. Et vous savez, il y a des promesses qui sont là. Des promesses, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données en plus. Et donc, dans cette situation, dans cette circonstance, il opère en leur faveur cette multiplication des pains pour pourvoir à leurs besoins, de manière à ce que non seulement ils aient entendu le pain du ciel, la parole de Dieu, qui est le pain du ciel, mais que leur corps soit nourri et qu'ils aient ainsi une merveilleuse expérience dont ils vont pouvoir se prévaloir et dont ils vont pouvoir, par laquelle ils vont pouvoir s'encourager tout au long de leur existence. Amen. Vous savez, Jésus est ému de compassion pour le monde qui se perd, pour toutes ces foules. Vous savez, aujourd'hui sur la terre, il n'y a jamais eu autant de monde, hein, il n'y a jamais eu autant de foules qu'aujourd'hui sur la terre. Dans l'histoire de l'humanité, nous sommes vraiment au plus grand point. Les foules sont plus nombreuses que jamais, mais en tout cas, le Seigneur est désireux et capable d'agir pour tous. S'il se confie en lui, s'il se tourne vers lui, béni soit son nom. Amen. Amen. Et puis nous l'avons dit en deuxième, il y a eu trois occasions où Jésus a eu pitié de gens qui l'ont supplié. Nous voici maintenant dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et au verset 40. Et là nous nous trouvons devant un lépreux, un homme donc qui était exclu de la société. Un lépreux était chassé à coups de pierre lorsqu'il essayait de s'approcher des gens. Donc, et donc cet homme a pris de très gros risques. Et nous lisons, chapitre 1, verset 40, un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit dans son ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Voilà encore une manifestation évidente de la compassion du Seigneur. Rappelez-vous combien cet homme avait pris des risques. Nous pouvons imaginer comment il a dû guetter le moment où l'attention des gens n'était pas relâchée, et puis comment il en a profité pour se précipiter aux pieds de Jésus et pour lui dire d'un seul coup, avant qu'on le chasse, parce qu'on devait le chasser normalement, avant, d'un seul coup, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tout de suite il a dit ça. Et Jésus tout de suite a répondu, avant que personne puisse réagir, et il l'a touché. Il ne fallait pas toucher un lépreux. Hein. Toucher un lépreux, c'était une impureté cérémonielle. Hein. Donc, il l'a touché, et alors celui qui ne peut pas être impur, mais qui rend pur ce qui est impur, eh bien celui donc l'a touché, et le miracle s'est opéré, et cet homme a été entièrement guéri. Amen. Alléluia. Jésus a été ému par la détresse de cet homme, et aussi par sa confiance, hein, parce que cet homme, il s'est jeté là, il n'avait pas de plan B, hein, il n'a pas d'autre solution que celle-là. Il ne s'est pas ménagé de porte de sortie, pas ménagé d'échappatoire. Il avait tout mis, ses œufs dans le même panier, dans cette situation-là. Et voici comment Jésus lui a manifesté sa compassion. Amen. J'avance un peu dans l'évangile de Marc maintenant, au chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 17. Et là, il est question de cet enfant possédé par un démon. Marc 9, donc, je lis à partir du verset 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'Esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Amen. Voici donc un appel. Cet homme appelle Jésus. Il appelle la compassion de Jésus. « Aie compassion de nous » crie-t-il. Et Jésus va entendre sa prière. Vous savez, cet homme, eh bien, Jésus en quelque sorte le reprend. Parce qu'il voit qu'il n'a pas la foi qu'il devrait avoir. Il lui dit, mais Comment ça, si tu peux, hein? Puisque cet homme disait, si tu peux, eh bien, délivre mon enfant. Il mettait un doute sur le fait que Jésus puisse, hein? Alors Jésus lui répond, mais comment ça? Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, il réalise à la fois le manque de sa foi, et puis en même temps, bien, il crie à Jésus. Et vous savez, Jésus n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous répondre. Hein. Jésus a compassion de nous. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, lorsque nous reconnaissons nos manques, hein, lorsque nous ne prétendons pas être autre chose que nous, ce que nous sommes. Hein, donc, et il demande à Jésus d'avoir compassion. Et voyez comment Jésus a manifesté pleinement et puissamment cette compassion. Et c'est pour ça que si vous vous confiez en Jésus, même si votre foi est bien faible, hein, même si vous réalisez que votre foi n'est pas ce qu'elle devrait être, eh bien, croyez qu'il veut agir. Et c'est vrai qu'il veut avoir compassion de vous également, parce qu'il n'a pas changé. Amen. Amen. Matthieu chapitre 20, verset 34. Et là, nous pouvons lire à partir du verset 29 déjà. Et là, il s'agit de deux aveugles. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Vous voyez comment ces hommes ont été suppliants. Vous voyez comment ils ne se sont pas laissés arrêter par leur entourage. Vous savez, il y a des gens, ils sont toujours en train de guetter ce que le voisin va pouvoir penser. Puis voilà, puis ils vont se laisser former par l'opinion des autres. Mais non, mais vous savez, quand on est dans une position devant Dieu, quand on est convaincu, quand vraiment on crie au Seigneur, même si peut-être eh bien il ne répond pas tout de suite, parce que Jésus n'a pas répondu tout de suite, hein, remarquez bien. Hein. Mais ils ont continué à crier, même lorsque les autres autour d'eux voulaient les empêcher de parler, ils ont continué à crier. Et ils ont eu raison, parce que c'est de cette manière qu'ils ont touché, qu'ils ont profondément éveillé la compassion de Jésus. Et ça a été véritablement un grand et merveilleux miracle. Amen. Et ainsi, au travers de ces trois cas, ce qu'on peut dire, qu'on vient de voir, il nous est dit qu'ils ont supplié pour obtenir la délivrance. Et nous voyons que Jésus était capable de manifester la même compassion dans les situations les plus diverses. Et ainsi, s'il en est parmi nous qui sont comme ce lépreux, parce qu'ils sont atteints par la lèpre du péché, sans espoir qui les ronge, eh bien, ils peuvent aussi crier au Seigneur et il aura compassion d'eux. Alléluia. Si on est qui sont comme cet enfant démoniaque, qui était incapable de prier par lui-même, incapable d'obtenir des délivrances par sa propre capacité, et que ce soit pour lui ou que ce soit pour les autres, s'il y en a qui sont comme cela, eh bien, ils peuvent aussi s'adresser au Seigneur qui aura compassion d'eux. S'il y en a qui sont comme ces aveugles, ces deux aveugles, et qu'eux aussi sont aveugles aux choses de Dieu. Un autre frère témoignait tout à l'heure, ben, il ne réalisait pas, il ne comprenait pas des choses. Hein. On peut être aveugle spirituellement, hein. Avoir nos yeux de la foi qui sont encore fermés et incapables de discerner les promesses et les accomplissements des promesses de Dieu. Bien, si tu sais que tu es dans cette position, eh bien, tu peux là aussi crier à Dieu et il agira pour toi et il va se glorifier et il va manifester puissamment cette compassion. Amen. Après, vous avez aussi trois occasions, je ne vais pas lire les textes parce que le temps passe, mais trois occasions où le Seigneur a eu compassion de personnes qui sont clairement citées. Et là, vous avez le premier texte dont je vous donne la référence, c'est dans Luc au chapitre 7, versets 12 à 15, c'est le fils de la veuve de Naïn. Donc, eh bien, ce garçon était décédé et on l'emmenait à sa dernière demeure. Et donc, cette femme, c'était son fils unique. Elle était veuve en plus. Et nous voyons que son cœur était brisé et il apparaît que Jésus connaissait probablement cette femme parce que Naïn était proche de Nazareth, donc. Mais en tout cas, voyez comment Jésus a été touché par ses larmes. Vous savez, il ne faut pas craindre de verser des larmes. Même devant le Seigneur, il ne faut pas craindre de verser des larmes. Hein. Et il agira pourvu qu'on s'abandonne à lui et qu'on se confie en sa parole. Dans Jean chapitre 11, verset 33, nous avons la magnifique expérience de la résurrection de Lazare. Et voyez comment Jésus a été ému de compassion aussi, ça nous est dit dans ce verset 33. Et là aussi, nous trouvons le verset le plus court de la Bible, mais pas le moins rempli de sens. Le verset le plus court de la Bible, c'est deux mots. Jésus pleura. C'est la seule occasion où il est dit que Jésus a ainsi pleuré. Mais quel poids il y a dans le contenu de son verset. Et ce sont les larmes de Marie. Marie qui aimait à s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. Ce sont ces larmes-là qui ont été cause de cette émotion et de cette compassion de Jésus-Christ. Et là encore, le miracle de résurrection va s'accomplir à cause de cette compassion-là. Et puis l'épître de Jacques nous dit encore, au chapitre 5, au verset 11, la chose suivante. « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Épître de Jacques, chapitre 5, au verset 11. Et là encore, vous savez, si quelqu'un a eu des souffrances dans sa vie, c'est bien Job. On le dit, et il suffit de lire le livre de Job et on peut le comprendre, que de souffrances, que de difficultés terribles et considérables rencontrées par lui. Alors il n'y a personne qui a eu peut-être autant de souffrances que lui, sinon le Sauveur lui-même. Sinon Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il s'est retrouvé sur la croix. Donc, il nous a expliqué que le Seigneur l'a délivré de toutes ses souffrances, de toutes ses épreuves, à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion. Et ainsi, voyons-nous au travers de ces trois cas, que les larmes, lorsqu'elles sont accompagnées de confiance au Seigneur, sont un puissant moyen pour que la compassion de Christ se manifeste en notre faveur. Amen. Après, vous avez trois paraboles aussi. C'est notre dernier grand point, dans lesquels on voit la compassion du Seigneur qui est manifestée. Parabole, donc, c'est un récit que Jésus, une petite histoire que Jésus raconte, avec quand il y a une image, et cette image est destinée à nous faire comprendre une vérité salutaire, une vérité spirituelle. Et vous avez déjà, dans Matthieu 18, verset 27, la parabole du serviteur impitoyable. Et ça nous parle d'un serviteur qui devait une dette immense à son maître, enfin, et il ne pouvait pas la payer. Son maître a ordonné donc qu'il aille en prison. Et donc, il a supplié, et le maître lui a remis sa dette. Mais lui, par contre, lorsqu'il est retrouvé face à un de ses compagnons qui lui devait une petite somme, il n'a eu aucune pitié de lui. Aucune pitié de lui, et il n'a pas voulu faire grâce de cette petite somme, et il l'a emmené en prison. Et le maître, lorsqu'il a appris cela, a été indigné. Et puis il a convoqué ce serviteur, et puis il lui a dit, mais tu aurais dû pardonner. Alors toi qui as reçu un si grand bénéfice, tu aurais dû pardonner, et tu ne l'as pas fait. Et donc à ce moment-là, bien, il l'a envoyé en prison pour purger sa peine jusqu'au bout. Donc ça nous explique et ça nous rappelle combien nous devons nous-mêmes avoir compassion vis-à-vis de notre prochain. Si nous voulons être au bénéfice de la compassion de Dieu, il est absolument important et nécessaire qu'il en soit ainsi. Tout le récit se trouve dans le chapitre 18 du verset 23 au verset 35 et ça nous rappelle la dette incalculable que nous avons à l'égard de notre maître, que nous avons à l'égard de Dieu. Si Dieu se mettait à calculer avec nous, si Dieu commence à compter combien nous sommes trouvés débiteurs, la multitude de mauvaises actions dont nous sommes débiteurs devant Dieu, et celle de nos mauvaises paroles, et celle encore plus grande de nos mauvaises pensées, et puis la multitude des bonnes choses que nous aurions pu faire ou dire, que nous n'avons pas faites et que nous n'avons pas dites. Donc ça aussi, donc, ce qu'on appelle les péchés d'omission. Et puis la multitude, la masse énorme de nos péchés conscients et celle encore tellement plus grande de nos péchés inconscients. Et oui, c'est vrai. Donc il serait impossible, même au meilleur d'entre nous, de tout payer et nous serions toujours sous la condamnation. Mais à cause du sacrifice de Jésus, à cause du sacrifice de Christ, le Seigneur Tout-Puissant, ému de compassion, remet leur dette de péché à tous ceux qui se confient dans son sang et le supplient d'avoir grâce et miséricorde envers eux. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 33, vous avez une autre parabole, du verset 30 au verset 34, c'est la parabole du bon samaritain. Et là, il nous a expliqué aussi qu'un voyageur terriblement blessé, agressé par les brigands, était là, à moitié mort, mort du chemin. Et puis voilà, il y a eu un sacrificateur qui est passé, qui ne s'en est pas occupé, un lévite qui est passé, qui ne s'en est pas occupé, et c'est le bon samaritain. Le fameux bon samaritain, qui lui donc s'est arrêté parce qu'il a été rempli de compassion. Hein, c'est clairement indiqué là encore. Hein. Ce voyageur était, vous savez, aujourd'hui il y a des blessés du chemin, il y en a de toutes sortes. Hein. Des blessés du chemin dans notre monde, il y en a beaucoup. Des gens qui sont non seulement malades physiquement, mais qui sont incompris, qui sont rejetés par la société, qui sont abandonnés pour une raison, pour une autre, qui peuvent être dans la dépression, la faiblesse, le malheur, l'inadaptation de toutes sortes de façons, et le monde passe à côté d'eux, ne s'occupe pas de leur état. Et bien souvent même le monde religieux passe, donc représenté dans notre passage par le sacrificateur et lévite, et ne s'occupe pas d'eux, mais le Seigneur Jésus, lui, veut s'en occuper. Alléluia. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, béni soit son nom. Il est venu pour ceux qui sont dans ces difficultés, et ému de compassion, il veut se pencher sur eux pour les sauver et pour les bénir. Qu'ils puissent simplement lui faire confiance. Amen. Et enfin, vous avez la parabole du fils prodigue. Ah, nous sommes là dans Luc chapitre 15, verset 11 au verset 24. Et il nous a expliqué que ce fils prodigue, donc, qui après avoir pris toute la part d'héritage qui lui revenait, après avoir dilapidé cette part d'héritage en vivant n'importe comment, en vivant une vie de bâton de chaise, comme on dirait aujourd'hui, donc, voilà, qui revient à la maison dans la misère la plus totale. Et puis il espère être accueilli, il espère avoir le droit, parce que la période est dure, c'est une période de famine, donc il se dit, mais à la maison, on m'accueillera peut-être, je demanderai juste à être un serviteur, qu'on me donne juste un petit peu à manger, qu'on me donne simplement de quoi subsister. Et puis voilà que, alors qu'il revient, de loin, son père qui le guette, son père qui regarde de loin, qui tous les jours regarde de loin pour voir son fils venir, son père ému de compassion. Donc, le voit, et son père le prend dans ses bras. Et quand son fils commence à lui dire, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un. » Il veut dire ça, il n'a pas fini de le dire, que son père déjà le serre dans ses bras, et que son père donc lui manifeste son amour et ses compassions, qu'il l'accueille d'une façon admirable, qui lui démontre son amour. Vous savez, nous sommes tous des fils et des filles prodigues, hein, vis-à-vis de Dieu. Dans le prophète Ésaïe nous dit, nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Eh oui, les gens, ils aiment bien suivre leur propre chemin, ils aiment bien suivre, ils aiment bien en faire à leur tête, mais voyez combien ça déraille. Voyez combien souvent on s'écarte de ce qui devrait être le bon chemin. Combien il est nécessaire, par conséquent, de se tourner vers celui qui a supporté, qui a subi, supporté, porté sur lui l'iniquité de nous tous. Et quand nous revenons à lui avec cette attitude sincère de repentance, c'est aussi pour lui l'occasion de nous manifester sa compassion, son amour, et ceci d'une façon merveilleuse et salutaire pour nous. Amen. Alors, en conclusion, nous voyons que le Seigneur veut manifester sa compassion, c'est son désir, envers ceux qui ont à son égard une immense dette de péché. Oui, il veut leur manifester sa compassion. Envers ceux qui sont blessés dans ce monde et dans cette existence, envers ceux qui se sont éloignés et qui reviennent à lui de tout leur cœur. Oui, pour eux tous, il veut manifester sa compassion. Et il veut le faire comment ? De diverses façons. En guérissant de toute maladie, en délivrant de toute détresse, en libérant des puissances mauvaises, en enlevant la lèpre de notre péché par le pardon et par la délivrance qu'il veut nous donner, en nous délivrant aussi de l'aveuglement, il veut manifester sa compassion pourvoyant aux besoins et aussi en envoyant, comme nous l'avons vu au départ, des serviteurs de Dieu pour annoncer l'Évangile. L'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous dit dans cet Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, que nous puissions venir à Jésus et nous verrons, nous bénéficierons de cette grande compassion, et il accomplira son œuvre, et nous pourrons aussi être saisis de cette même compassion envers ceux que Dieu met avec nous. Amen. Amen. Nous te remercions, notre Sauveur et notre Dieu. Combien tu es merveilleux, combien tu es digne de bénédiction, et combien tu es digne de confiance, combien il est précieux pour nous et important de réaliser que tu n'es pas comme ce que le diable essaierait de nous faire croire, ou ce que les religions essaient trop souvent de nous faire croire, une espèce de père fouettard, intraitable, inaccessible. C'est tout différent. En réalité, tu es ce Dieu de grâce, tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu de bonté, et tu as manifesté ta compassion en venant sur cette terre, et tu continues à la manifester parce que tu es toujours le même. Et merci, mon Dieu, parce que ce soir, si quelqu'un se tourne vers toi du fond de son cœur, du fond de son âme, eh bien, il pourra également faire l'expérience dès ce jour et dans la suite de sa vie de ces grandes et merveilleuses compassions divines. Amen. Amen.